When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Un podcast Binge Audio.
Salut, c'est Maëlle Diallo. Avocat, c'est le genre de métier qui rend fiers les parents, qui nous passionne souvent depuis qu'on est petit, un métier plein de prestige. Et pourtant, de l'autre côté, certains ou certaines pensent des avocats qu'ils sont véreux, menteurs, bref, des gens pas très recommandables. Et s'il y a bien une partie de la profession qui subit ce genre de stéréotype, c'est la commission d'office. Dossier à la chaîne, maltraitance des clients, tout y passe. Récemment, dans l'affaire des deux policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016, on a découvert que l'avocat commis d'office de l'un des suspects depuis innocenté lui avait suggéré d'avouer sa culpabilité en prétextant un faux blackout, ce qui n'est pas pour arranger la réputation des commis et commises d'office. Mais finalement, on en sait peu sur celles et ceux qui défendent les indéfendables, les personnes précaires ou les mineurs à l'abandon. Comment on noue des relations avec un client quand on passe devant le juge l'heure d'après? Pourquoi tant de jeunes avocats veulent participer à la commission d'office? On s'est intéressé à ces questions, c'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour savoir qui étaient vraiment les avocats commis d'office, j'ai rencontré Déborah Meyer-Mimran. Elle est avocate au barreau de l'Essonne et très impliquée dans la commission d'office. D'ailleurs, c'est quoi la commission d'office ?
La commission d'office, c'est un système, une particularité qui permet aux gens en grande précarité financière ou en précarité sociale, notamment les personnes détenues, de pouvoir bénéficier d'un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'État et qu'il n'a pas à régler lui-même. En réalité, on est tous tenus d'accepter ce genre de mission. Ça, c'est la première des choses. Moi, en m'installant dans l'Essonne, qui est un département qui est quand même grandement sinistré, où on a une population qui est très précaire, sur le territoire duquel on a quand même une énorme maison d'arrêt qui est Fleury-Mérogis, on a un petit peu plus, j'ai envie de dire, qu'un avocat parisien, par exemple, ce devoir, quelque part, d'accepter des gens et des détenus, en l'occurrence, au titre de la commission d'office. C'est-à-dire qu'on prend sur nous de gagner eh bien forcément moins d'honoraires et moins d'argent que si on avait un client qu'on pouvait facturer normalement, simplement par déontologie et parce que ça reste la base de notre métier qu'on doit exercer avec humanité.
Et justement, au niveau de la facturation, est-ce que tous les frais donc sont pris en charge par l'État ?
Alors, en réalité, c'est un système d'unité de valeur et en fonction des missions que l'on accomplit, on a un nombre d'unités de valeur. Donc, en fait, c'est comme une espèce de forfait. C'est-à-dire que vous défendiez un mineur devant le tribunal pour enfants ou un adulte majeur devant la cour d'assises, on ne sera forcément pas payé de la même façon. Ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas la même, je ne vais pas dire implication, mais simplement, ce n'est pas le même temps. Donc, on part du principe qu'il y a effectivement forcément des missions avec un forfait qui sera un petit peu plus élevé que d'autres. Mais après, le concept de tout pris en charge, non. En fait, on n'est jamais gagnant sur la commission d'office. Je ne vais pas dire qu'on est perdant pour autant, mais c'est simplement qu'on n'est jamais gagnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'enrichir avec de la commission d'office. Ce n'est pas le but, de toute façon.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette manière-là de plaider ?
Alors, ce qui est intéressant avec la commission d'office, c'est qu'en réalité, on a accès à des dossiers qui sont des dossiers un petit peu hors normes, qui sont un petit peu particuliers. Notamment sur des commissions d'office criminelles, avec des gens qui sont accusés des crimes les plus graves et qui se retrouvent généralement incarcérés sans forcément de soutien familial à l'extérieur, avec des cours d'assises, par exemple, des procès qui peuvent durer de 3 jours à 2 mois. Et les gens ne peuvent pas forcément payer un avocat qui sera là quotidiennement pendant 2 mois devant une cour d'assises pour l'assister et pour le défendre correctement. Donc on accepte à ce titre-là d'être payé par la commission d'office et ça nous permet aussi de faire notre métier, en plus à mon sens, avec une grande indépendance. Il y a 2 façons de fonctionner. C'est-à-dire que soit un client nous contacte en direct et nous demande d'être son avocat et on a cette obligation morale et déontologique de vérifier si ce client peut avoir accès à la commission d'office. S'il peut avoir accès à la commission d'office, on se doit, dans le devoir de conseil, de lui indiquer que nos honoraires pourraient être pris en charge par la commission d'office. Dans ces cas-là, on accepte ou non. C'est un choix, effectivement, qu'on fait en fonction du dossier, en fonction de la particularité, en fonction de l'investissement, et puis pour des raisons aussi qui sont des raisons personnelles. On a chacun une espèce de clause de conscience. Il y a des dossiers qu'on ne prend pas, qu'on n'est pas à même de gérer et de traiter correctement. Donc, naturellement, en fait, on va les mettre à distance et on va dire trouver quelqu'un, un confrère, qui sera peut-être plus à même de vous défendre utilement. Sinon, la base, c'est que c'est le bâtonnier qui désigne les avocats au titre de la commission d'office, notamment pour les mineurs et notamment en matière criminelle, principalement. Voilà. Alors, le bâtonnier, j'allais dire, c'est le chef des avocats, mais non, en réalité, c'est un confrère qu'on élit tous les deux ans et qui, pendant deux ans, va un petit peu avoir ce pouvoir de gérer le barreau, qui est une espèce d'entité, de communauté un peu à part. Donc, il y a plusieurs barreaux en France, en fonction des départements. Et c'est lui qui aura ce droit de regard de savoir si un avocat peut aussi être compétent pour prendre des dossiers criminels, pour aller en garde à vue, assister des gens dans le cadre de permanence, qui peut être compétent pour des mineurs. On a des obligations de formation à faire, évidemment. On a l'obligation d'avoir un minimum d'intérêt pour la matière. N'importe quel avocat ne peut pas être désigné au titre de la commission d'office pour n'importe quelle mission. C'est aussi son pouvoir et son rôle de vérifier qu'on a bien les formations adéquates et en tout cas qu'on aura la capacité de traiter ce genre de dossier. Dans la commission d'office, il y a des dossiers pour lesquels on peut être désigné. Ça, on a en réalité un peu le temps qu'il nous faut et puis le temps qu'on prend sur un client qu'on va suivre du premier jour de son incarcération au dernier, à savoir une cour d'assises, par exemple, sur un vrai dossier criminel, sur des systèmes de permanence, notamment au titre des comparutions immédiates, par exemple. On va être désigné pour une journée donnée. Donc, on arrive le matin à 8h30, 9h et on a l'ensemble des dossiers qui doivent passer dans l'après-midi, que ce soit chez le juge d'instruction, le juge de la liberté et de la détention, ou les comparutions immédiates. Alors forcément, là, dans ces cas-là, généralement, on a entre 2 heures dans le meilleur des cas et à 10 minutes dans le pire des cas. Il faut qu'on soit à l'instant présent pour le client, quel qu'il soit. C'est-à-dire que si on a 10 minutes pour une comparution immédiate, eh bien en 10 minutes, il va falloir qu'on perçoive s'il y a une souffrance particulière, si la garde à vue s'est bien déroulée, la façon dont la personne va pouvoir se présenter devant un tribunal. On va essayer de nouer ce lien qui sera relativement instantané en comparution immédiate, mais par exemple pour le cas de mineur ou le cas d'une cour d'assises, c'est très différent. Parce que les mineurs, quand on a un dossier pour lequel on est désigné, tous les dossiers qui suivront, on sera désigné également. Donc forcément, au bout du 5e ou du 6e dossier, on a noué un lien fort avec le mineur, on le suit, on connaît son parcours, on connaît sa famille, on connaît surtout ses anciens dossiers, on connaît sa situation éducative, et ça nous permet de le défendre au mieux. Là, c'est un vrai lien qui se noue. Moi, je prends l'exemple des mineurs parce que c'est surtout des fois des mineurs qu'on peut assister dans le cadre d'assistance éducative, c'est-à-dire de placement dans des foyers ou dans des familles d'accueil, et dans un cadre pénal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le défendre s'il a volé un portable ou s'il a cassé la gueule à un copain à la sortie de l'école. Donc forcément, on a l'ensemble. Ça, c'est quand même relativement plus facile et relativement plus aisé pour nous qu'une comparution immédiate où on aura 10 minutes pour nouer un lien avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, forcément. C'est fondamental de discuter et dialoguer avec les clients parce qu'il n'y a pas de bonne façon de se présenter devant un tribunal. Et c'est extrêmement compliqué d'être balancé devant un tribunal correctionnel, par exemple en comparution immédiate, en sortie de garde à vue. Et la posture que l'on va adopter à ce moment-là sera forcément mauvaise pour la juridiction. C'est-à-dire que soit on se défend trop, et dans ces cas-là on est vindicatif, soit on se défend pas assez, donc on est coupable. Donc c'est toujours une position qui est très, 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 très délicate. Et généralement, ces gens-là sont à ce moment-là, en vraie précarité. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à parler, ils ont du mal à s'exprimer, ils ont du mal à faire passer ce qu'ils ont envie de dire. Et je pense que ça, notre rôle à nous, qu'on soit la commission d'office ou payer je ne sais combien un dossier, on doit réussir à être la voix et la parole de notre client sans dénaturer ce qu'il a en tête et sans dénaturer ses propos. Et il faut vraiment qu'on soit au plus proche de ce qu'il peut ressentir et ce qu'il peut être. On est cette voix-là, on est finalement leur dernière voix et leur accès sur le monde extérieur pour qu'ils puissent se défendre au mieux. Donc c'est indispensable. Le dossier, c'est une chose, il faut le connaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument avoir perçu la personne qu'on a en face de soi.
On entend souvent que les avocats commis d'office ont mauvaise réputation. Pourquoi ? D'où ça vient ? Et comment vous l'expliquez-vous ?
Alors, moi, je l'explique de façon très simple. C'est qu'il y a un principe dans la vie, c'est que plus on paye cher, et mieux c'est. Et c'est un principe de vie, en réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression. C'est-à-dire que moi-même, si j'ai envie d'un bon éclair au chocolat, est-ce que je vais aller chez Karl Marletti ou est-ce que je vais aller à la boulangerie en bas de chez moi? Forcément, j'aurai l'impression que dans un palace ou dans une boulangerie luxueuse, ce sera meilleur. Bon, eh ben j'ai envie de dire pardon, mais les avocats, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sans les payer, ils ne font pas le job. Il faut savoir, encore une fois, que c'est un choix de vie qu'on fait. C'est-à-dire que si on ne veut pas prendre un dossier à la commission d'office, on ne le prend pas. Personne ne nous met un flingue sur la tempe pour nous dire « tu prends un dossier à la commission d'office parce que tu es obligé, parce que tu le fais comme ci, parce que tu le fais comme ça ». Non, il y a des obligations de formation qu'on a, parce qu'on part aussi du principe que c'est notre métier, c'est le cœur de notre métier, de défendre des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus personne, qu'à un moment donné, on est peut-être juste leur seul espoir ou en tout cas quelque chose. Alors, c'est aussi renvoyer l'avocat à son ego démesuré et de sauveteur particulier, j'en sais rien. Mais il faut aussi entendre, que les gens entendent, que nous, on ne le fait pas avec force et contrainte. On le fait parce qu'on a choisi de le faire, parce qu'on a décidé de le faire. Et moi, je remarque généralement, quand je suis de permanence pénale, que j'arrive, il y en a un sur deux qui me dit « Oh, moi, j'ai jamais eu l'avocat commis d'office, je ne sais pas comment ça va se passer. » Et je leur dis « Bah écoutez, moi, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je m'en vais. » Et au bout de 5 minutes, généralement, ils ne veulent pas qu'on parte. Et à la fin de la plaidoirie, ils nous disent « Bon, bah en fait, vous êtes bon. » Et je dis « Non, en fait, ce n'est pas que je suis bonne ou pas bonne, c'est juste qu'en fait, j'ai fait mon métier. Et je le fais que vous me payez 10 000 euros une audience ou que vous ne me payez rien parce que vous sortez de garde à vue et que vous n'êtes pas en mesure de régler les honoraires d'avocat. Je le fais exactement de la même façon. Si je ne veux pas le faire, je reste chez moi, je change de métier. C'est tout, en vrai. Et on ne s'enrichit pas sur la commission d'office, hein, il faut le savoir. Donc on ne fait pas ça comme un plan de carrière pour gagner de l'argent ou autre. Pas du tout. Alors, on ne va pas se mentir non plus. Ça lance une clientèle. On ne va pas se mentir non plus. Quand on sort de l'école et qu'on a fait une collaboration, etc., chez des patrons et qu'on veut s'installer, forcément, on démarre comme tout le monde, c'est-à-dire en faisant des permanences, en se formant à la comparution immédiate, en se formant à la garde à vue, en se formant à tout ça. Et ça permet aussi, à la fin, d'avoir des gens qui reviennent nous voir quand ils sont libres et à ce moment-là, qui ne sont plus dans une situation de précarité financière ou émotionnelle ou autre, qui ne sont plus détenus et qui, dans ces cas-là, ne sont plus accessibles à la commission d'office et qui nous règlent des honoraires. On ne va pas se mentir, c'est aussi une vitrine. Je veux dire, quand on est en comparution immédiate et qu'on s'occupe bien des dossiers, que les gens, les familles, le public d'une audience correctionnelle voient eh bien, que l'avocat, il connaît son dossier, qu'il l'a lu, qu'il connaît la personne dont il parle, qu'il fait le boulot et qu'il défend correctement. C'est aussi une vitrine pour après avoir des clients qui reviennent dans un cadre autre et qui nous payent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, je vais vous dire, moi je vois sur le barreau de l'Essonne, on a des confrères qui ont 26 ou 27 ans. Et on a des anciens bâtonniers qui en ont 70 qui font de la commission d'office et qui n'ont pas besoin financièrement de faire la commission d'office et qui n'ont pas besoin de se faire une clientèle, mais simplement parce qu'ils partent du principe que c'est leur métier. C'est le cœur du métier pénal, c'est de prendre des gens en situation de précarité. C'est d'être là quand il n'y a plus personne.
Donc la commission d'office, est-ce que c'est une forme d'engagement ?
Ah mais c'est un engagement total. Mais la commission d'office, c'est un engagement total. Et d'ailleurs, moi, je vois sur des petits barreaux, sur un petit barreau comme le mien, nous, le bâtonnier, quand il réalise qu'un confrère n'a plus cet engagement, c'est-à-dire arrive en retard, lit à peine les dossiers, s'intéresse à peine aux gens, c'est très simple. Il est exclu des listes. Il y a un contrôle qui est tout de suite fait. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui est fait quand l'avocat n'est plus en mesure de gérer, ou en tout cas n'est pas en mesure de gérer la commission d'office, il s'en va. Il est désinscrit des listes. C'est aussi pour ça qu'on a signé, on signe, ce qu'on appelle des chartes pénales, c'est des engagements en plus assez matériels et physiques, où on s'engage à faire des formations particulières, où on s'engage à arriver à l'heure, où on s'engage à lire les dossiers consciencieusement. C'est des choses qui sont faites justement pour qu'en plus de cet engagement moral qu'on a chacun, parce qu'on reste des professions indépendantes, qu'on a chacun, on a aussi un engagement vis-à-vis du barreau, on a aussi un engagement vis-à-vis de l'État, on exerce aussi une mission de service public, donc on a aussi des comptes à rendre de cet ordre-là, et je pense que c'est très bien ainsi, qu'il y a des garde-fous finalement, qui permettent d'éviter certaines dérives. Vraiment, l'écueil principal pour moi, ce serait de bâcler le travail, de pas lire les dossiers, de pas faire le vrai travail sérieux, de prendre avec un peu de mépris et un peu de hauteur les gens qui sont en face de nous, parce que ça reste des clients et ça reste des gens dont on a la charge à un instant. Et je pense que ça serait vraiment le pire écueil. Je pense qu'à partir du moment où on est blasé, à partir du moment où on n'y arrive plus, à partir du moment où on est foncièrement agacé par cela, je pense qu'il faut savoir cesser.
«
La commission d'office, c'est avant tout un travail de passionné qui ne sera jamais au cœur des revenus d'un avocat, mais qui reste crucial, ne serait-ce que pour son rôle initial, faire en sorte que l'on soit tous égaux en droit. Merci à Déborah Meyer-Mimran pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Dess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.